France Inter.
C'est dans le cœur et non dans le cerveau qu'Aristote situait l'origine de notre esprit. Nos battements cardiaques ne suivent-ils pas le flux de nos pensées et de nos émotions? C'est à cette théorie intuitive que nous devons bon nombre de nos expressions contemporaines. Avoir bon cœur, prendre les choses à cœur ou à contre-cœur, mettre du cœur à l'ouvrage. Et ce soir, nous recevons Stanislas Dehaene à l'occasion de la publication de son nouveau livre « Face à face avec son cerveau ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Rayana qui sait que l'amour et le cerveau, ça va ensemble.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste.
Êtes-vous intelligent, Stanislas ?
Merci de votre question. Écoutez, je ne sais pas. J'ai bénéficié d'une bonne éducation et j'ai effectivement appris énormément de choses tout au long de ma vie, assez rapidement. Je suppose que ça fait de moi quelqu'un d'un peu intelligent.
Qui définit l'intelligence ?
Ah, ça n'est pas une chose facile, définir l'intelligence, parce que, évidemment, tout dépend des différentes dimensions que l'on souhaite mesurer. Il y a tout simplement la faculté d'apprendre, c'est peut-être la forme la plus basique d'intelligence, la vitesse avec laquelle nous sommes capables d'apprendre, et puis ensuite, il y a évidemment les capacités linguistiques, les capacités musicales, les capacités mathématiques, qui toutes se retrouvent dans notre cerveau, mais dans des recoins différents, ce qui fait qu'il est difficile de parler d'une intelligence unique, vous voyez. Mais il y a quand même la faculté de rassembler ces informations dans un espace de travail dans lequel on peut comparer les choses. Notre cerveau dispose d'un espace qui rassemble les modalités entre elles. Et là, on trouve des corrélats de ce qui est mesuré par les tests de QI. Il y a cette idée un peu simple qui est l'intelligence, c'est ce que mesurent les tests de QI. Ça ne va pas très loin parce que, évidemment, ce test est très limité. Ce que les auditeurs doivent savoir, je pense, sur l'intelligence, c'est que il n'y a pas de définition d'intelligence indépendante des tests pour la mesurer, et cette définition est éminemment malléable en fonction de l'éducation. On peut trouver des variations de points de QI considérables en fonction de la quantité d'éducation qu'on a reçue.
Tout le monde est intelligent.
Tout le monde est intelligent, oui. Dans ce livre, j'essaye d'insister sur le point de départ. Notre cerveau est un cerveau d'Homo sapiens organisé. Nous avons tous au départ, une organisation extrêmement similaire qui fait de nous des êtres humains et un cerveau qui est très différent de celui des autres primates. Et effectivement, ce cerveau a des potentialités considérables.
Toutes égales, quel que soit l'individu.
Toutes égales, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais avec, disons, un fondement constant qui fait de nous êtres humains, un héritage de l'évolution qui fait que nous avons tous, par exemple, les bases cérébrales des mathématiques. Nous avons tous la capacité d'apprendre les mathématiques. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence, par exemple, entre les garçons et les filles. On ne voit aucune différence à la naissance dans tous les tests qui ont été utilisés pour montrer, par exemple, la discrimination des nombres, le fait que dès la naissance, on est capable de voir s'il y a trois objets ou deux objets, par exemple, dans un ensemble. Tout ceci est présent chez chacun d'entre nous.
Avons-nous plusieurs formes d'intelligence ?
Je pense que oui, on peut dire comme ça. Il faut considérer, on parle du cerveau, mais il faut considérer que c'est un organe multiple. C'est comme si on avait de très nombreux organes à l'intérieur de notre tête. Il y a des régions spécialisées, des territoires spécialisés par l'évolution pour prendre en compte, par exemple, l'espace qui nous entoure. Toute une série de régions qui existent d'ailleurs chez tous les mammifères, qui permettent de cartographier l'espace, de ne pas se perdre dans notre environnement. Ça implique en particulier l'hippocampe, qui est une structure en deçà du cortex, puis d'autres régions du cortex. Puis il y a toute une série d'autres régions du cerveau qui s'intéressent aux personnes, complètement différentes, qui vont nous permettre d'apprendre sur les autres et de représenter nous-mêmes, à l'intérieur d'un réseau, nous-mêmes comme un autre. Vous voyez. On peut parler d'intelligence spécialisée, en tout cas de processeurs spécialisés dans le cerveau, oui.
Donc ça veut dire qu'à chaque endroit du cerveau se trouve une forme déterminée de capacité de penser le monde.
Oui, alors j'aime bien parler de modèle interne. Voilà, notre cerveau emmène avec lui des modèles du monde extérieur. Et dans différentes régions, on a un modèle des personnes, un modèle des lieux, un modèle de la langue. Tout ceci, ce sont donc des internalisations progressives qui se produisent au cours du développement du cerveau, des contraintes du monde extérieur. Et certains d'entre nous apprenons à développer des modèles encore beaucoup plus élaborés, par exemple des modèles scientifiques du monde extérieur. C'est une des grandes conquêtes du cerveau humain, tout à fait unique au cerveau humain, d'arriver à faire de la science, d'arriver à comprendre l'univers, et puis d'arriver à se comprendre soi-même. C'est un petit peu l'aboutissement et la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre. Les neurosciences commence à faire en sorte qu'on se comprenne nous-mêmes, qu'on se retrouve face à face avec son cerveau, face à face à nous-mêmes, avec des images tout à fait extraordinaires à toutes les échelles de cet organe qui nous fait penser.
Ce cerveau m'est apparu comme une sorte de continent, comme la première fois que les hommes avaient découvert la Lune, avec des régions insoupçonnées, une cartographie très compliquée. C'est un univers en soi, ce cerveau.
Oui, moi j'aime beaucoup cette métaphore. J'ai voulu faire ce livre parce que j'étais un peu jaloux des collègues en astrophysique. Eh bien, le cerveau, c'est une galaxie en soi, et on peut le voir à différentes échelles. Il est formé de milliards de cellules nerveuses, les neurones, 86 milliards de neurones pour l'espèce humaine. Voilà, on arrive maintenant, grâce à des sortes d'observatoires du cerveau dans le monde entier, à disposer d'instruments. Il a fallu développer des instruments tout à fait particuliers pour le voir d'abord dans sa globalité. Un objet de l'ordre de 1,5 kg, un petit peu
très
plus.
Très beau,
très plissé, un petit peu comme des empreintes digitales. Chacun d'entre nous avons un plissement différent. Je montre dans le livre des images de jumeaux. Alors on pourrait penser que les vrais jumeaux, qui sont génétiquement identiques, auraient exactement le même cerveau. Pas du tout. Vous regardez ces cerveaux et vous n'arrivez pas à savoir en fait qui sont les paires de jumeaux. Parce
que
chacun d'entre nous a un plissement.
Ça veut dire que dans l'espèce humaine, Stanislas Dehaene, que... nous avons chacun un visage différent de tous les autres, mais nous avons un cerveau différent de tous les autres.
Chacun de notre cerveau est à la fois unique et membre de l'espèce humaine, donc avec une nature particulière. Mais oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que les gènes ne peuvent absolument pas déterminer tous les événements de notre cerveau. On parle d'un million de milliards de synapses, qui sont les points de contact entre les neurones. Alors ces synapses, bien entendu, elles se développent au départ sur une base génétique, mais la génétique surproduit un nombre considérable de synapses. Il y en a trop. Il y en a pratiquement deux fois trop à un moment, vers 2-3 ans, en fonction des différentes régions du cerveau. Et puis, l'apprentissage va sélectionner les circuits qui sont utiles et éventuellement amplifier les circuits qui sont les plus utiles, refaire des nouvelles synapses et de nouveau sélectionner vers plusieurs vagues successives comme ça. Et il faut voir que dans l'espèce humaine, le développement est extrêmement prolongé. C'est une caractéristique de notre espèce. Nous sommes une espèce qui reste jeune pendant très longtemps, peut-être toute la vie pour certains circuits, qui reste plastique.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au cerveau, vous qui êtes maintenant professeur au Collège de France, éminent spécialiste mondial et pas seulement européen de notre cerveau? Qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin-là?
Ça a commencé très tôt. Je me souviens plus très bien, honnêtement. J'étais toujours passionné de science, oui, passionné de lecture aussi. J'étais passionné de beaucoup de choses. Mais vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à me demander pourquoi on faisait des erreurs en mathématiques. Et puis, vous savez, il y a un moment où on comprend, il y a un déclic qui se produit. J'étais très intrigué. Je me disais, et puis qu'est-ce qui fait que mes amis à l'école ne comprenaient pas forcément la même chose que moi? Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui se débloque? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger sur la psychologie. Puis je me souviens très bien aussi, il y avait simplement de longues routes en voiture. On a un peu oublié ça. Maintenant, les enfants ont des tablettes, ils s'occupent en permanence. Bon, nous, on faisait de longues routes en voiture. Je m'ennuyais un petit peu. Et puis, je me suis rendu compte à un moment que si on s'intéressait à son propre cerveau, bah, finalement, c'est un espace infini qui s'ouvre en permanence. On a toujours notre cerveau avec vous. On peut essayer de se comprendre soi-même. Puis, il y a eu la rencontre quand même avec un livre qui a joué un rôle très important dans ma vie. C'est L'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, auquel je rends hommage modestement dans mon propre livre Face à face avec son cerveau. L'homme neuronal, c'était un livre programmatique qui annonçait, je pense, ce qu'on allait pouvoir faire dans le domaine de la compréhension du cerveau humain, qui disait nous sommes une machine merveilleuse, il faut arriver à la disséquer pour en comprendre tous les rouages, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma recherche.
Je vous propose d'écouter la voix de Jean-Pierre Changeux qui va expliquer qu'il n'oppose le naturel et le culturel que pour le cerveau et qu'on est loin d'avoir des ordinateurs aussi performants que le cerveau humain. C'est un entretien du 24 octobre 2017, la voix de Jean-Pierre Changeux.
Je pense que d'abord, personnellement, je n'oppose pas le naturel au culturel, parce que je pense que le culturel est évidemment issu de l'activité du cerveau de l'homme, et notre cerveau est susceptible d'internaliser le culturel. Donc, je dirais que notre cerveau est à la fois nature et culture. C'est un cerveau humain, et en même temps, il est imprégné de tout l'environnement culturel dans lequel le jeune s'est développé. En ce qui concerne la comparaison aux ordinateurs, avec les ordinateurs, je dirais qu'on est très très loin, même dans le projet Cerveau Bleu, d'arriver à avoir des ordinateurs qui se comparent dans leur performance à celle du cerveau humain. C'est vrai que certains ordinateurs sont plus rapides pour le jeu de Go, pour les échecs, que le cerveau de l'homme, mais il faut bien penser à une chose sur laquelle on ne réfléchit pas suffisamment, c'est que le cerveau de l'homme fonctionne à la vitesse du son, comme je vous parle, alors que l'ordinateur fonctionne à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire des ordres de grandeur plus rapidement. Et malgré ça, malgré cette différence gigantesque entre le cerveau de l'homme et le cerveau de l'ordinateur. À ma connaissance, on est encore très loin d'accéder aux performances du cerveau humain, ne serait-ce que sur un point dont on peut parler, c'est-à-dire la créativité artistique ou philosophique, puisque quand même, les philosophes sont aussi des créateurs.
Nous venons d'entendre la voix de Jean-Pierre Changeux. Il parle de cerveau humain, mais il emploie le terme aussi cerveau d'ordinateur. Et quand j'ai lu votre ouvrage qui paraît ces jours-ci, donc Face à face avec son cerveau, je me suis demandé si le cerveau tel que vous l'analysez maintenant scientifiquement avec les nouvelles imageries que vous possédez sur un plan éminemment scientifique, est-ce que le cerveau n'est pas un super ordinateur ?
Moi, je pense que le cerveau est une machine de traitement de l'information. Ça, je crois qu'on a beaucoup d'évidence que c'est le cas. Mais ça n'est pas un ordinateur comparable à ceux dont nous disposons actuellement. Mais lorsqu'on compare directement avec le
cerveau...
Donc
vous diriez pas la même chose que Jean-Pierre Changeux il y a 4 ans.
Je dirais que les choses ne cessent de progresser, mais je dirais quand même la même chose. C'est-à-dire que on arrive assez bien maintenant à capturer, allez, le premier tiers de seconde de traitement de l'information dans le cerveau. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. Ou la demi-seconde, j'irai jusqu'à la demi-seconde. C'est-à-dire l'entrée d'une image dans le cerveau, la reconnaissance d'une image. Vous savez que maintenant, votre appareil photo, votre smartphone a quand même d'excellentes capacités de reconnaissance des images. Le traitement de la voix, c'est quand même un progrès considérable de l'intelligence artificielle. Ce sont tous des traitements qui sont inspirés de l'architecture du cerveau, et notamment du fait qu'il travaille massivement en parallèle avec des tas d'unités qui analysent à différentes échelles le signal. Et lorsque on regarde directement... comment ces réseaux de neurones prédisent l'activité cérébrale, on trouve une certaine correspondance, qui n'est pas mauvaise. Par contre, là où ça ne va plus du tout, c'est au-delà de ces 300 ou 500 millisecondes, lorsque le cerveau humain prend conscience d'une information et prend conscience de manière symbolique, par le biais du langage. Et on peut parler aussi des langages, le langage mathématique, par exemple. Il n'y a plus de comparaison valable avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Même pour des choses extrêmement simples.
Et il n'y en aura pas.
Oh, alors ça, non, je dirais pas du tout ça. Non, je pense pas. Je pense qu'il y en aura. Il n'y a pas de raison. Notre cerveau est une sorte de machine. Simplement, on n'a pas encore compris les algorithmes qu'il utilise. Pour l'instant, notre cerveau humain est nettement plus rapide qu'aucun des ordinateurs ou des intelligences artificielles actuelles. Il est capable d'extraire l'information et de la comprimer d'une façon beaucoup plus efficace que nous. Et ça commence chez le bébé. Et ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'un petit bébé de l'espèce humaine, c'est un super ordinateur plus intelligent qu'aucune de nos intelligences artificielles actuelles. Et quand on pense en plus que ça consomme extrêmement peu, probablement 20 watts, un peu plus sans doute chez le jeune enfant, quand le cerveau se met en place, c'est extraordinaire. C'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, une galaxie. Moi, je suis ébloui, hein, je suis émerveillé devant la complexité et la beauté de ce cerveau. On ne sait pas le reproduire actuellement.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir une capacité symbolique qui vient du cerveau. Vous dites, Stanislas Dehaene, dans votre livre, que les chimpanzés aussi sont proches de nous.
Alors, ils sont proches de nous, ça c'est certain, mais il y a quand même une singularité humaine que j'essaye de discerner dans les 20 dernières pages de ce livre. Il y a toute une série d'arguments qui laissent penser que le cerveau humain est différent, pas seulement dans sa taille. La taille, finalement, c'est pas l'argument.
C'est très gros, un cerveau, d'après vous.
Ah, c'est gros,
moi,
oui, bien sûr.
Moi, j'étais très étonné.
Et nettement plus gros qu'un cerveau de chimpanzé, certainement. Hein. Mais la taille
donc,
ne fait pas tout.
Avoir une cervelle d'oiseau, c'est une bonne expression de la langue française.
Non, parce que, par exemple, il y avait l'homme de Flores, qui a vécu il n'y a pas si longtemps, et qui a été tout petit, et qui avait un petit cerveau. Et comme on vient de le dire, les bébés ont un cerveau plus petit, ou comparable à celui d'un cerveau du chimpanzé, et pourtant, ils ont une puissance de calcul et d'extraction de l'information infiniment supérieure. Donc non, il y a une question d'architecture. Alors, je fais état de toute une série de recherches récentes qui montrent par exemple que les faisceaux de communication dans le cerveau humain sont particuliers. Il y a des faisceaux à longue distance, notamment dans l'hémisphère gauche, qui connectent les aires du langage et qui sont tout à fait particuliers à l'espèce humaine. Beaucoup plus développés, comme si pour créer du langage, on avait besoin de rassembler les informations dans une région. Et on est capable de parler de tout, pratiquement, de tout ce qu'on connaît. Ça veut dire que la région de Broca, qui va nous servir à articuler, à exprimer le langage, eh bien, elle doit rassembler toutes les informations en un seul lieu pour formuler le message sous une forme linguistique. Donc ça, la connectivité a changé. Et il semblerait que même les neurones eux-mêmes, les neurones humains, soient plus ramifiés. Ils ont plus de branches, qu'on appelle les dendrites. Et du coup, ils peuvent recevoir plus de synapses en provenance de plus d'autres neurones. Et surtout, ils ne sont pas passifs. Alors là, il y a une grande différence avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'idée l'idée, c'est que l'unité de base, c'est un neurone qui fait juste la somme de ses entrées. Une opération extraordinairement simple, faire la somme. Eh bien, dans le cerveau humain, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué que ça. Un neurone unique fait une somme de produits, de sommes de produits. Il est déjà un processeur en soi, beaucoup plus compliqué. Donc, nous avons 86 milliards de processeurs qui travaillent en même temps dans le cerveau humain. Voilà, c'est ça qui fait la complexité inégalée et la difficulté aussi de comprendre ce cerveau. On est encore très loin d'avoir tout compris.
Parmi vos mentors, il n'y a pas seulement Jean-Pierre Changeux, il y a aussi Jacques Monod. Je vous propose de l'écouter, il va parler des mystères du cerveau, la régénération, la mémoire. C'est une archivina du 20 février 1971.
Le tout premier des problèmes en ce qui concerne le système nerveux central, c'est comment se construit spontanément et par lui-même au cours du développement du fœtus et de l'embryon, et ensuite jusqu'à l'âge de la puberté à peu près, comment cette circuiterie phénoménale s'agence-t-elle de façon à fonctionner? Et il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, nous n'avons presque aucune interprétation de ce phénomène, qui est un prodigieux problème, marqué, si vous voulez, par de très belles expériences, comme celle de Sperry, qui montre que si on coupe un nerf optique, par exemple, à la base, chez les animaux où le nerf optique est capable de régénérer, il régénère en effet et va retrouver les connexions qu'il faut dans le système nerveux central. Il y a en second lieu le secret de la mémoire qui reste complètement mystérieux en ce sens que nous n'en avons aucune interprétation chimique. Tout le monde est d'accord sur le fait que la mémoire est presque certainement codée sous forme d'une modification des propriétés de transmission des synapses ou de certaines synapses. Mais en quoi consistent ces modifications? On n'en a pas la moindre idée pour l'instant. Et enfin, le troisième et plus profond des problèmes, c'est les circuits que j'appellerais, si vous voulez, idéatifs, c'est-à-dire les circuits nerveux qui nous permettent non seulement de fonctionner d'une manière plus ou moins stéréotypée, mais d'être créateur d'idées, inventeur, découvreur.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Monod. Ça fait 50 ans maintenant, il parle d'une circuiterie phénoménale, terme magnifique pour définir ce que peut faire notre cerveau, chacun de nos cerveaux. Depuis, on a l'impression, et notamment sous votre impulsion, et l'impulsion de tous les scientifiques qui travaillent à vos côtés, Stanislas Dehaene, qu'on a fait des avancées scientifiques absolument considérables.
On a énormément progressé dans la cartographie, je dirais, dans la compréhension.
Et la fonctionnalité de chaque partie du cerveau.
Exactement. Une cartographie qui n'est pas seulement anatomique. Je montre ces images anatomiques qui sont d'ailleurs assez anciennes. La dissection du cerveau était pendant longtemps la seule méthode disponible d'analyse. Donc on regardait des cerveaux morts. Maintenant, ce qui est nouveau, effectivement, c'est l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'avec l'IRM, par exemple, ou d'autres méthodes comme la magnéto, l'électroencéphalographie, on voit le cerveau en activité. Et on découvre que ce sont des régions extrêmement différentes qui s'occupent de différentes activités cognitives. Lire, parler, compter, lire un chiffre versus lire une lettre, ce sont déjà des circuits différents qui entrent en jeu. Donc on découvre vraiment une cartographie fonctionnelle extraordinairement fine. J'ai reproduit certaines de ces cartes, par exemple, qu'on appelle sémantiques, où on découvre que selon que vous pensiez à un chiffre, que vous pensiez à une personne, que vous pensiez à un animal, que vous pensiez à un objet, c'est pas du tout les mêmes régions du cerveau qui vont s'activer. Nous avons tous ces cartes, plus ou moins organisées de la même manière d'ailleurs. Il y a une certaine reproductibilité. Oui, on peut dire on a beaucoup progressé. Maintenant, sur les mystères dont parle Jacques Monod, il en reste encore beaucoup du mystère. On ne comprend pas comment le cerveau humain code un symbole. C'est aussi simple que ça. Je montre par exemple dans le livre un neurone qui est spécialisé pour Luke Skywalker. C'est quand même extraordinaire. Nous avons tous dans notre tête un concept de Luke Skywalker et on trouve des neurones qui ne répondent qu'à Luke Skywalker. Presque, parce qu'ils répondent aussi à Yoda. Donc ils répondent à un autre maître Jedi. Voilà, on comprend qu'il y a des neurones qui sont dédiés à des concepts, mais on ne comprend pas très bien comment leur agencement permet de faire un traitement symbolique et permet par exemple de comprendre les phrases du langage. La question de la représentation des langages est vraiment encore très ouverte aujourd'hui.
Y a-t-il encore beaucoup de mystères à vos yeux dans le fonctionnement du cerveau? Peut-être, mais ne faites-vous pas peut-être aussi un peu l'impasse de tout ce qui concerne le champ psychanalytique, ce qu'a apporté la psychanalyse? Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Lacan à propos de l'inconscient, de la science et du langage. C'est une archivina du 29 mai 1976.
La structure. dont la psychanalyse impose la reconnaissance est l'inconscient. Ça a l'air bête de le rappeler, mais ça l'est beaucoup moins quand on s'aperçoit que personne ne sait ce que c'est. Ceci n'est pas pour nous arrêter. Nous ne savons rien non plus de ce que c'est que la nature. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une physique et d'une portée sans précédent, car elle s'appelle la science. Une chance pourtant qui s'offre à nous pour ce qui est de l'inconscient, c'est que la science dont il relève est certainement la linguistique. Premier fait de structure. Disons plutôt qu'il est structuré parce qu'il est fait comme un langage, qu'il se déploie dans les effets du langage. Inutile de lui demander pourquoi, car il vous répondra, c'est pour te faire parler. Tout comme il arrive qu'on en use avec les enfants, en se logeant à son enseigne, mais sans savoir jusqu'où va la portée de ce qu'on croit n'être qu'un tour tout juste bon pour se tirer d'affaire. Car on oublie que la parole n'est pas le langage, et que le langage fait drôlement parler l'être qui dès lors se spécifie de ce parlage. Il est évident que ma chienne peut parler, et même que ce faisant, elle s'adresse à moi. Mais que lui manquant le langage, ceci change tout. Autrement dit que le langage n'est pas réductible à la communication.
Alors, beaucoup de choses dans cette archive de Jacques Lacan célèbre, l'inconscient est structuré comme un langage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stanislas Dehaene, en tant que scientifique. Est-ce que vos préoccupations ne sont que scientifiques? Et est-ce que vos découvertes, de plus en plus nombreuses sur le fonctionnement du cerveau, exclut forcément ce qui constitue encore un mystère pour nous, ce qui était sans doute à l'intérieur de nous et qu'avait découvert Sigmund Freud avec ses successeurs comme Jacques Lacan? Ou est-ce que vous n'êtes pas du tout dans la même visée?
Pas du tout.
Du monde?
Vraiment pas du tout. Je pense que là, il y a un discours historique absolument pas appuyé sur l'expérimentation.
Mais que vous récusez pour autant.
Bon, qui est très dépassé, je ne sais pas si je le récuse ou non, c'est simplement dépassé, c'était quelque chose qui n'était pas appuyé par l'expérience. L'expérience montre aujourd'hui qu'il y a de l'inconscient partout dans le système nerveux, c'est l'inconscient qui domine. Et il n'y a pas un inconscient qui serait structuré comme un langage, il y a une diversité de processus inconscients qui nous permettent de reconnaître un visage, de rester orienté dans l'espace alors qu'on n'y pense même pas, ou de formuler un mot sans avoir conscience des processus qui nous permettent de sélectionner ce mot-là plutôt que cinq autres alternatives. Vous voyez, tous les circuits du cerveau fonctionnent sur un mode non conscient. Et dans la mesure où nous comprenons un petit peu comment ça fonctionne, nous comprenons les aspects du traitement non conscient du cerveau. Tout ce qui est imité par l'intelligence artificielle, ce sont des opérations mécaniques, modélisables sur le plan mathématique, qu'on peut inclure dans des ordinateurs, qui sont donc non conscientes. La difficulté, c'est exactement l'inverse de ce que dit Jacques Lacan, c'est de comprendre l'aspect conscient, qui est une petite frange, la surface de l'iceberg, une petite partie de l'activité de notre cerveau conduit à des opérations conscientes. Et alors même là, il y a quand même des progrès considérables sur le plan simplement empirique. On a longtemps pensé que c'était pas étudiable. La conscience était cet aspect ineffable, subjectif, et donc par définition échappé à l'approche scientifique. Ça n'est pas le cas. Et il y a aujourd'hui maintenant beaucoup de paradigmes expérimentaux qui permettent de contraster des états de traitement non conscient de l'information et des états de traitement conscient de l'information. Je prends un exemple très simple, c'est l'anesthésie, dans lesquels vous faites disparaître l'état de conscience, ou le coma. Donc, quand vous disiez, est-ce que vous intéressez aussi à des aspects pratiques, effectivement, bien sûr, toute cette recherche sur la compréhension du cerveau, c'est aussi une recherche qui a des applications pratiques pour essayer de répondre à cette demande clinique. Expliquez-nous pourquoi tel patient a perdu la conscience, ou bien, surtout, est-ce qu'il est encore conscient, par exemple. Vous connaissez l'histoire dramatique de Jean-Dominique Bobby, le scaphandre et le papillon. Il y a des patients dont on a du mal à savoir de l'extérieur s'ils sont encore conscients ou pas, parce qu'il ne bouge plus du tout.
Alors, je rappelle rapidement l'histoire de Jean-Dominique Bobby, qui avait écrit ce merveilleux livre que vous venez de citer, qui est un journaliste qui a perdu à la suite d'un accident toute possibilité de mobilité, et pour communiquer avec le monde, mais il y arrivait, il battait des cils.
Absolument, il pouvait encore contrôler le mouvement de sa paupière, il a réussi à dicter un livre qui est un livre absolument merveilleux et bouleversant, hein. Le scaphandre et le papillon, lettre à lettre, en arrêtant le battement de sa paupière au moment où, où la personne qui récitait l'alphabet disait la lettre qu'il souhaitait nommer. Donc cet exemple est extraordinaire parce qu'il montre qu'on peut encore avoir une activité parfaitement consciente, mais découpée du monde extérieur, avec une incapacité d'agir. Alors lui avait encore la paupière, il y a des patients qui n'ont même plus la paupière, mais dont on pense par des moyens d'imagerie cérébrale qu'ils sont encore conscients, parce qu'on voit dans leur cerveau des signatures de la conscience. Nous disposons aujourd'hui, par ces moyens d'imagerie, de signatures de la conscience qui sont des états d'activité du système nerveux caractéristiques de la prise de conscience d'une information du monde extérieur. Et donc, nous pouvons dire, cette personne, peut-être, elle ne bouge pas, mais il y a de très fortes chances qu'elle soit encore consciente. Et bien entendu, ça change radicalement la prise en charge de telle personne. Donc, vous voyez, les sciences cognitives et les neurosciences cognitives s'intéressent profondément à l'inconscient et au conscient, mais essayent de le faire sur une base empirique plutôt que sur la base d'un discours qui n'est pas suffisant pour se comprendre soi-même. Les neurosciences cognitives ont pour visée d'essayer de se comprendre soi-même. Et ça passe par l'expérimentation.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Stanislas de Hane pour notre plus grand bonheur. Louis Armstrong, We Have All the Time in the World. C'est la musique d'ailleurs du dernier James Bond.
We have all the time in the world. Time enough for life. Unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time. Just for love, nothing more, nothing less, only love.
Je vous cite la fameuse phrase de Rabelais tirée de Pantagruel, Stanislas de Hane. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous me répondez quoi ?
Oui, je suis évidemment d'accord. À double point de vue. D'abord, on vient de parler de la science de la conscience. Pour nous, c'est un merveilleux problème d'arriver à comprendre les architectures qui nous rendent conscients du monde extérieur. Mais je le prends évidemment aussi comme n'importe quel scientifique. Nous avons un devoir de conscience, nous avons un devoir d'une science bien réfléchie et qui soit utile aux citoyens. Et je pense que c'est le cas. D'abord, sur le plan fondamental, nous avons toujours cherché à nous comprendre nous-mêmes. Je pense que c'est la grande quête de l'humanité, de comprendre qui nous sommes, quelle est notre place dans l'univers. Alors, c'est le message de ce livre, Face à face avec son cerveau. Regardez les choses en face, vous êtes le résultat de cette extraordinaire architecture, de cette galaxie neuronale. Votre pensée émerge de ces circuits. Vous espériez peut-être autre chose. Vous avez dit tout à l'heure, ça fait un peu peur, oui, mais il faut regarder les choses en face. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres doués de raison. La science, c'est, je dirais, la raison poussée à son terme, c'est d'essayer vraiment de tirer le maximum des informations que nous arrivons à obtenir, des expériences que nous faisons. Donc, regardons les choses en face, voilà notre cerveau. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de conscience, ça ne veut pas dire que nous
devons... Mais on ne peut pas la cartographier dans cet immense univers qui est notre cerveau, la conscience. Ça reste quelque chose entre soi et soi.
Elle n'est pas localisable, c'est un système distribué dans le cerveau, mais elle est uniquement issue de notre cerveau. Et elle disparaîtra à la mort de notre cerveau. La mort cérébrale, c'est la mort de notre esprit.
Mais n'avez-vous pas l'impression que quelquefois vous nous menez vers des chemins très organicistes, Stanislas Dehaene ?
Oui, mais je pense qu'il faut simplement regarder les choses en face et que c'est pas forcément la perte de l'espoir. J'aborde ce sujet dans les dernières pages du livre. Je pense pas du tout que on doive être pessimiste face à cette vision-là. Mais effectivement, je pense pas qu'il y ait de survie de l'âme après celle du corps. Je pense que si nous avons une forme de survie, c'est dans la tête des autres. Comme je le disais au départ, nous emmenons des modèles du monde extérieur et dans ces modèles, il y a des modèles des autres. C'est ça qui fait que dans le rêve, par exemple, vous pouvez rencontrer votre grand-mère disparue et vous la modélisez. Et c'est votre cerveau qui projette cette représentation, mais c'est une représentation assez réaliste des autres. Donc nous survivons brièvement dans la tête des autres, nous survivons brièvement aussi dans ce que nous laissons, peut-être un livre, peut-être une œuvre d'art. Et puis voilà, nous disparaissons en ayant transmis à nos enfants, et je pense que là aussi, il y a des valeurs communes à l'ensemble de l'humanité, nous transmettons à nos enfants le relais des conquêtes de l'humanité, dont la conquête du cerveau.
Dans la réalité, Stanislas Dehaene, vous présidez un conseil scientifique pour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Vos découvertes scientifiques nous ont permis de pouvoir porter des applications bien concrètes à l'apprentissage de la lecture. Est-ce que vous pensez que cette conquête scientifique appliquée à l'éducation nationale et donc aux petits-enfants porte ses fruits aujourd'hui ?
Oui, je crois...
Elle est contestée par certains.
Non, mais je crois qu'il y a de moins en moins de contestations sur le fait qu'on peut parler scientifiquement, effectivement, de l'éducation. On est loin de savoir tout. Et donc, on a besoin d'une très intense collaboration entre des enseignants et des scientifiques. Mais il est possible de poser cette question... Comment apprend-on ? Est-ce qu'il y a des stratégies pour apprendre mieux ? Si je souhaite encore retenir une information dans 2 ans, comment je dois faire ? Est-ce que il suffit d'étudier et de stabiloter un livre ? L'expérience montre que non. Il y a des manières de réviser, et en particulier de réviser à des intervalles de plus en plus étendus, en laissant des périodes de sommeil. Il y a donc une science de l'apprentissage.
Et puis
c'est
surtout
cela,
la vitesse de la réponse quand il y a erreur. C'est ce que j'ai noté à l'intérieur de cet ouvrage qui paraît ces jours-ci.
Effectivement, notre cerveau répond à l'erreur et c'est en utilisant l'erreur qu'il arrive à se corriger. Il y a des signaux d'erreur dans notre cerveau qui se croisent. Alors j'en montre un effectivement dans le livre qui est cette énorme négativité, c'est très spectaculaire. Lorsque vous faites une erreur et que vous le savez, vous savez, vous appuyez sur le bouton pour envoyer un email et puis vous rendez compte que non, il fallait pas l'envoyer, vous avez oublié la pièce jointe ou quelque chose comme ça. Vous aimeriez arrêter votre geste. Eh bien, le cortex frontal déclenche une immense onde négative que l'on voit très facilement de l'extérieur et que l'on a mis en image pour ce livre et qui essaye de retenir l'action. Et c'est les conséquences de ces erreurs qui vont vous permettre de corriger de sorte que vous ne fassiez pas cette erreur la prochaine fois ou moins souvent en tout cas.
Je vous propose d'écouter un reportage à Calais, une classe de CP en éducation prioritaire qui expérimente justement une de vos nouvelles méthodes d'apprentissage de la lecture. C'était le 5 décembre 2017.
On y va. Go. Dans cette classe de CP, en éducation prioritaire...
Venez vous ranger ici, s'il vous plaît.
C'est moi.
Allez.
11 élèves pour une maîtresse...
Attention, regarde bien.
Et son chronomètre.
Là. Mo.
Tel un sportif, Rohan apprend à décoder les mots le plus rapidement possible.
Hop, hop, hop.
Tout se mesure en MCL, mots correctement lus par minute.
Allez, on refait encore, on essaye de battre.
Avec cette méthode, le décryptage devient mécanique.
Voilà, là t'es concentré. Là c'est très bien. On a besoin de savoir le temps qu'ils font par ligne. Et plus ils vont aller vite, plus bah, ça va être automatique. Voilà, c'est un automatisme en fait.
Ainsi, la reconnaissance des mots est instinctive.
On dit les lettres et après on le dit vite pour apprendre à lire.
Ici, on utilise également les tablettes. Chaque élève a des exercices de répétition propres à son niveau, ce qui permet d'individualiser l'apprentissage.
Dis bien la dernière lettre, tu l'as pas bien dit.
Goub.
Goub. Bien.
Casque sur les oreilles, les écoliers apprennent à lire à partir d'une méthode syllabique enrichie des apports des neurosciences.
Au niveau des neurosciences, on va travailler les sons, donc à l'oral, pour après arriver à décoder des vrais mots, pour après donner le sens à tout ça.
C'est ce que les chercheurs appellent le sens de la lecture. Résultat, 3 mois après la rentrée des classes...
Je l'ai dans ma tête, armoire. D'un coup, ça fait armoire.
Tu peux lire des histoires maintenant ?
Cette expérimentation est soutenue par une association qui lutte contre l'échec scolaire.
L'idée, c'est d'agir plutôt en prévention, c'est-à-dire réduire ces difficultés-là, donner plus de temps, plus d'attention aux élèves qui en ont le plus besoin pour les ramener à un niveau qui leur permette de poursuivre une scolarité dans les meilleures conditions.
La méthode, appliquée dans 300 classes sur tout le territoire, a fait ses preuves. En 6 ans, cette école, qui était évaluée comme l'une des plus faibles de France, a rattrapé la moyenne nationale.
Alors l'application de vos recherches scientifiques, Stanislas Dehaene, a des conséquences bien concrètes en ce moment dans l'éducation nationale, et c'est la grand-mère qui va vous parler, qui va vous poser une question. Est-ce que cet esprit scientifique qui préside à l'apprentissage de la lecture ne va pas nuire à l'évolution individuelle de chaque enfant ? Est-ce que cela ne va pas amener un esprit de compétitivité peut-être inutile ? Est-ce que ça ne singularise pas psychologiquement et ça ne classe pas les enfants dans des catégories trop étanches par rapport à l'éducation que les autres enfants avaient reçue auparavant, où il y avait une sorte de recherche d'autonomie de la personne ? Là, est-ce qu'il n'y a pas un côté mécaniciste dans les applications scientifiques de votre recherche ô combien éminente de spécialiste du cerveau.
Alors moi, je suis grand-père, moi aussi, 2 fois d'ailleurs, et donc je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le cerveau de mes petites filles, et avant ça, de mes enfants. Évidemment, ce reportage est un peu caricatural, parce qu'il porte sur une étape tout à fait particulière, dont on sait qu'elle doit faire l'objet d'une concentration importante d'apprentissage. En début de CP, c'est l'apprentissage du décodage. On apprend un cryptogramme, les lettres doivent être décryptées sous forme de phonèmes. Donc c'est le passage des graphèmes aux phonèmes. Il faut l'apprendre. Si vous ne l'apprenez pas explicitement, comme je suppose que c'était fait dans les classes en question, il ne s'agit pas juste de faire lire à toute vitesse, mais d'enseigner explicitement les correspondances graphèmes-phonèmes. Si vous ne le faites pas, l'enfant ne le découvre pas tout seul. En tout cas, rares sont les enfants qui le découvrent tout seul. Et donc, en fait, on introduit des différences, simplement des inégalités liées au fait que certaines familles l'enseignent à leurs enfants et puis d'autres non. Voilà. Donc l'école doit absolument, en début de CP, enseigner les correspondances graphèmes-phonèmes. Ça ne suffit pas. C'est simplement une étape intermédiaire pour, se débarrasser de ce cryptogramme et accéder au sens. Et il y a tout un travail qui n'est pas mentionné dans le reportage, là, qui consiste à faire travailler les enfants sur le sens de ce qu'ils lisent. Voilà. Mais on ne peut pas accéder au sens si on n'a pas compris le code alphabétique. Et effectivement, pour ce qui est du code, alors on parlait de l'inconscient tout à l'heure, c'est un processus tout à fait inconscient dans notre cerveau, bien localisé dans une petite région qui est la même chez tout le monde, qui apprend à reconnaître les chaînes de lettres et à les convertir en phonèmes. On doit tous y passer. Avant d'avoir appris à lire, on a déjà des réseaux du langage. Les mondes, d'ailleurs, dans le cerveau, dès la naissance, ces aires du langage commencent à travailler, commencent à enregistrer le langage parlé. Et nous avons certainement dans notre cerveau, par rapport aux autres primates, des circuits spécialisés dans le langage parlé. Ce qui est nouveau dans la lecture, c'est d'y rentrer par les yeux. et non pas par les oreilles, si je puis dire de façon très simple. Voilà. Pour y rentrer par les yeux, il faut apprendre un code nouveau. C'est ça l'invention de la lecture. Une fois qu'on a appris le code, on retourne dans le circuit du langage parlé. C'est le même circuit pour le langage parlé et pour le langage écrit. C'est le circuit de la compréhension. Et là, bien sûr, il faut enrichir le vocabulaire des enfants. Il faut enrichir les tournures de phrases des enfants. C'est un travail qui précède le CP et qui va se continuer bien au-delà du CP. Et dans le livre, je montre cette image que je trouve personnellement extraordinaire, je peux le dire parce que ça vient de MIT, c'est pas de mon laboratoire, mais plus vous parlez à vos enfants, et vous parlez tôt, et vous leur parlez avec un vocabulaire riche, plus l'intensité de l'activation dans leur région de Broca, cette aire centrale du langage, va être importante, va être étendue. On le voit directement en IRM fonctionnel. Et là, il y a d'énormes différences, d'énormes inégalités que nous pouvons apprendre à compenser. Donc, je pense que c'est une recherche aussi éminemment sociale, quelque part, qui vise à développer, épanouir au maximum le potentiel de tous les enfants.
Nous vivons dans un monde d'accélération technologique, d'invention d'images qui nous environnent et nous bombardent. Nous avons maintenant, nous humains, grâce à notre cerveau, la possibilité de construire des univers parallèles. Certaines et certains veulent déjà s'y réfugier dans ces univers parallèles pour quitter notre propre humanité. Et puis, à l'intérieur des images et des séries qui nous bombardent, il y a ce son. Je vous demandais en première partie d'émission si vous étiez intelligent. Je vais vous demander si vous reconnaissez ce son, Stanislas. Alors, rassurez-vous, c'est pas le jeu des 1000 francs, hein. Mais c'est
j'ai entendu du japonais.
C'est du coréen, en fait. C'est The Squid, la série qui s'est abattue sur nous dans tous les sens du terme, qui obtient des millions de téléspectateurs à travers le monde, comme si nous avions un seul cerveau. Et là, on revient à votre origine scientifique. N'avez-vous pas l'impression que notre cerveau est capable de fabriquer des univers parallèles ou des séries qui nous rendent addictifs, qui vont profondément peut-être modifier notre rapport au monde et peut-être même des zones de notre cerveau ?
Bien sûr, mais je pense que ça ne date pas de The Squid, que j'ai pas encore regardé sur une chaîne. Je pense que ça date d'il y a bien, bien plus longtemps. Je pense qu'on peut citer Homère et l'Iliade et l'Odyssée qui nous emportent dans un monde imaginaire de dieux vivant sur le mont Olympe. Nous avons dans notre cerveau humain spécifiquement la capacité de créer des représentations arborescentes, qui partent dans toutes les directions. C'est ça qui nous permet, je pense, de faire de la science, mais c'est ça qui nous permet de rêver, d'imaginer, de créer ces mondes, d'écrire des histoires. Notre cerveau est combinatoire et crée des pensées combinatoires d'une manière qui dépasse complètement celui des autres espèces animales. Voilà. Donc en mathématiques, par exemple, vous créez cette objet bizarre qui est la racine carrée de moins 1. Alors, tout le monde sait que les nombres négatifs, on peut pas prendre leur racine carrée, parce qu'un carré, c'est un nombre positif, mais là, on invente la racine carrée de moins 1, c'est comme si on inventait le Père Noël. Bon, sauf que les mathématiciens découvrent que cet objet, qu'on va appeler i, c'est la base des nombres imaginaires, des nombres complexes, eh bien, va être extrêmement utile. Voilà. C'est la même chose, je dirais, dans l'ensemble des représentations culturelles de l'humanité. On invente des milliers de représentations, et puis certaines s'avèrent utiles, ou en tout cas s'avèrent pour intéressantes pour emmener notre imaginaire ailleurs. Et c'est ça qu'on appelle la culture. C'est quelque chose qui est tout à fait particulier à l'espèce humaine, cette capacité de se projeter ailleurs et de créer voilà du nouveau. Alors c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je suis pas persuadé qu'on a besoin de films d'horreur ou violents comme on vient de l'entendre, mais je crois que c'est la même faculté qui nous permet de créer cela et qui nous permet de créer aussi des visions scientifiques qui nous permettent d'imaginer ce qui se passe dans un soleil ailleurs sur une autre galaxie ou ce qui se passe dans notre propre cerveau qui est sa propre galaxie.
Merci infiniment Stanislas de Haan. Je rappelle que votre livre vient de sortir, qu'il s'intitule « Face à face avec son cerveau ». Il est publié aux éditions Odile Jacob. Et je précise que votre « Face à face avec votre propre cerveau » s'est très bien passé. Merci beaucoup.
Merci.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa. Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Et c'est avec Santé de Stromae que nous allons nous quitter ce soir. Donc le livre de Stanislas de Haane vient de paraître aux éditions Odile Jacob, Face à face avec son cerveau. Merci à Jean-Philippe Jeanne qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Iris Vertanessian. Et bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal, vous avez rendez-vous avec qui? Avec Mishka Sayas, pour son Very, Very Good Trip.